Voilà, nous avions dit que nous comptions laisser un temps pour les questions, parce que le but de la prédication, ce n'est pas d'imposer une idéologie. La croyance d'un homme, c'est de faire passer la parole de Dieu. Et nous devons être aussi prêts à répondre aux questions afin d'attirer une plus grande adhésion à cette parole que nous avons prêchée. C'est pourquoi on a étendu la prédication du dimanche à ce jour, du mardi, pour pouvoir nous aider à mieux accepter la parole de Dieu en répondant par la grâce de Dieu aux questions qui peuvent être poser. Voilà, parce que quelqu'un peut écouter et il peut décider de ne pas suivre, considérant que c'est la parole d'un homme. Et or, nous savons que lorsque nous pratiquons pas la parole de Dieu, nous nous sortons de l'accomplissement aussi de ses promesses. Donc voilà, notre souhait, c'est que le maximum puisse croire et pratiquer la parole. C'est pourquoi nous préférons toujours qu'il y ait des moments de questions et réponses pour enlever les doutes qui peuvent faire que quelqu'un ne pratique pas la parole de Dieu et ne soit pas béni. Voilà, je rappelle le sujet du dimanche, c'était lié à un passage dans 1 Timothée au chapitre 2. 1 Timothée 2, verset 15. Bon, tout en sachant qu'il y avait un contexte. Nous lirons tout le contexte, mais la prédication tournait autour du verset 15. Le contexte est le suivant, à partir du verset 9. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Voilà. Quel a été donc le sujet de la prédication du dimanche. Et on avait expliqué que même si une femme n'a pas d'enfant, elle est appelée à avoir une attitude de mère, donc de quelqu'un. Donc quand on voit les mères qui ont des enfants, comment on a vu certaines qui avaient un bon comportement, comment elles étaient, c'est ça qui est en quelque sorte l'appel de Dieu. En quelque sorte, c'est ça qui a sauvé Ève. Ève a échoué d'être juste une femme, mais elle a été rattrapée en donnant au monde, en donnant la vie à des enfants. Voilà, c'est ça qui a fait qu'elle a accompli en quelque sorte la destinée divine, puisque Ève, ça veut dire vie, vivant. Donc, on dit même que quand Adam lui a donné le nom de Ève, parce qu'elle est la mère de tous les humains. Donc, en quelque sorte, ayant échoué à être femme, elle a été mère. Donc, elle a été sauvée en devenant mère. Et aujourd'hui, nous savons que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cependant, cette phrase-là est comparable à celle qu'on peut dire lorsque on dit que on reconnaîtra les serviteurs de Dieu à leurs fruits. Donc, ça veut dire que même si on est sauvé par la foi, mais il y a quand même une conséquence dans notre vie. Il y a une transformation dans notre vie que nous humains, nous pouvons reconnaître pour dire que quelqu'un est de Dieu ou pas. Donc, sinon, on va rester dans le vague. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc, en quelque sorte, qu'elle soit sauvée en devenant mère, c'est pour nous les humains, le moyen de voir qu'une femme est vraiment entrée dans le salut du Seigneur, c'est qu'elle va avoir un comportement, pas de jeune fille avec de la légèreté, mais un comportement de mère, quelqu'un qui produit la vie, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui reste en silence, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui permet que des gens aussi soient bénis physiquement, matériellement. Voilà, c'est ce comportement de mère qu'on peut voir entre une mère et ses enfants. Eh bien, cette attitude-là, la femme va la voir pour l'humanité. Voilà. Quand une femme entre dans ce comportement-là, on peut reconnaître que Dieu l'a vraiment touchée, Dieu l'a vraiment transformée. Voilà, c'est que pour éviter toute ambiguïté concernant le salut, donc on a voulu éclairer là-dessus, on est sauvé toujours par la foi, par le moyen, par grâce, par le moyen de la foi. Voilà, ce qui est là, c'est la conséquence de ce salut qui doit se manifester par une attitude de mère et non une attitude juste de jeune fille. Voilà, maintenant je laisse la place aux questions s'il y en a. Bon, comme il n'y a pas de questions, oui. Oui, ça marche.
Dimanche, tu disais que parfois, quand tu reçois des couples dans ton bureau, qu'il y a des femmes, que les gens ils se plaignent. Non, que la femme, elle disait qu'elle ne se sentait pas aimée par son mari. Et que tu as dit, il faut qu'elle, elle aime. Enfin, je ne m'explique pas bien, mais en fait, moi, j'ai compris que la femme, elle doit se comporter comme une mère avec son mari, non ?
Non. Enfin, elle doit se comporter comme une mère dans l'humanité.
Oui, mais pas...
Mais pas non, avec son mari, j'avais dit plutôt qu'il fallait qu'elle... comme on a dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Voilà. Il fallait qu'elle produise le bonheur pour son mari.
Mais elle ne doit pas se comporter comme une mère.
Non, on n'a pas, non, c'est pas ce que j'avais dit dimanche, en tout cas. Aujourd'hui, je dis plutôt qu'elle doit se comporter dans une attitude de mère pour toute l'humanité. Voilà, et le mari est aussi dans l'humanité.
D'accord.
Mais ce n'est pas comme la mère physique du mari, quoi.
Mais une femme, par exemple, qui se marie, qui n'a pas encore d'enfant, comment elle peut... J'arrive pas à poser ma...
Ah, comment elle peut entrer
avoir
dans
une bonne
attitude de mère.
Oui, mais il ne faut pas non plus que son mari il se comporte comme un fils.
Non, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas qu'elle doit remplacer la mère physique.
Voilà,
ce n'est pas du tout ça. C'est qu'elle doit avoir une attitude... Mais Sarah n'avait pas d'enfant, la femme d'Abraham.
Non.
Elle n'avait pas d'enfant, mais on la cite en exemple. Donc, elle a eu l'enfant vraiment à la fin de sa vie. Mais toute sa vie, elle est citée en exemple. Donc dans 1 Pierre au chapitre 3, Sarah est citée en exemple d'une femme qui se comportait comme une mère. Voilà, donc elle devait bien s'occuper de gens qui l'entouraient. Elle devait avoir une sagesse. On dit qu'elle appelait même Abraham son seigneur. Donc elle a considéré son mari comme son chef. C'est cette attitude-là comme Sarah, donc, qui a considéré Abraham comme son chef, qui était soumise à son mari.
D'accord.
Mais toutefois, je dois dire quand même qu'il y a des moments dans mon bureau, je donne le conseil suivant aux femmes, de la même manière que vous aimez vos fils, aimez aussi vos maris. Ne les considérez pas comme des étrangers. Parce que vous pardonnez bien à vos fils tout, mais vous ne voulez pas pardonner à vos maris. Je leur donne quand même ce conseil-là. Ça ne veut pas dire qu'elles prennent la place de la maman de leur mari. Non. Et c'est juste que le même amour inconditionnel qui fait qu'une femme va visiter son fils en prison, même si son fils est un mafieux, même si son fils est un grand bandit, elle va continuer à l'aimer. Cet amour inconditionnel, elle devrait l'avoir aussi pour leur mari. Voilà, je donne quand même ce conseil-là. Ça ne veut pas dire qu'elles puissent rabaisser leur mari au niveau d'enfant. Pas du tout. Hein. Au contraire, le mari, c'est l'autorité de la femme. Voilà. Oui. D'accord.
Euh,
Moi, je voulais savoir, ça sert à quoi d'être diaconesse et évangéliste en tant que femme, puisqu'ils n'ont pas le droit de prêcher devant les hommes.
Non, elles n'ont pas le droit de prendre le dessus, d'instruire, d'enseigner. Enseigner, c'est donner des instructions. Donc, elles n'ont pas ce droit-là. Mais annoncer l'évangile, ce n'est pas interdit. Annoncer l'évangile, c'est dire que Jésus-Christ se sauve. Il n'y a pas de problème. Enseigner, c'est donner la doctrine. Donc, commencer à dire, voilà de quelle manière on doit se comporter, voilà comment on va faire. Comment... Mais annoncer qu'il y a un salut qui est apporté par Jésus, il y a le salut qui est apporté par Jésus, ça, ce n'est pas enseigner, ce n'est pas instruire, ce n'est pas donner des instructions. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, même dans la parole de Dieu, nous voyons l'apôtre Paul qui a travaillé avec des femmes qui ont annoncé l'évangile aux gens. On a aussi l'exemple de la femme samaritaine qui est partie annoncer aux gens que Jésus-Christ était là. Ça, ce n'est pas mauvais d'annoncer, dire que Jésus est là, dire que Jésus sauve. Mais ce qui n'est pas bon, c'est de prendre une position où on donne une ligne de conduite. Voilà comment le troupeau doit se comporter, voilà la ligne à suivre. La femme ne doit pas faire ça. Ça, c'est prendre autorité sur l'homme.
Et des femmes qui prophétisent à l'église.
Les femmes qui prophétisent.
Oui.
Justement, prophétiser, ce n'est pas enseigner.
C'est pas enseigner.
Mais... Enseigner, c'est donner une instruction. Même dans 1 Corinthiens 14, on dit qu'une femme, quand elle prophétise, elle doit avoir la tête voilée. Donc, c'est bien que Paul fait la différence entre prophétiser et enseigner, parce que c'est Paul toujours qui fait les deux instructions-là.
Parce que la Bible dit que la femme taise au milieu des hommes. Donc,
Oui, mais se taise dans le sens... de ne pas intervenir pour imposer son autorité, donner une instruction. D'accord. Donc c'est pourquoi on dit qu'elle écoute l'instruction en silence. Quand une instruction est donnée, les hommes peuvent discuter entre eux par rapport à l'instruction qui est donnée. Mais la femme ne peut pas intervenir pour contrer et vouloir imposer son avis. C'est ça qui est interdit. Parce que la forme des assemblées d'autrefois, c'était quoi ? C'était, vous avez un très bon exemple avec Paul et Jésus. Quand Jésus entre dans la synagogue, quand il finit de parler, il y a des gens qui contredisent. Et Paul, quand il entre dans une synagogue, quand il finit de parler, il y a des gens aussi qui se lèvent pour contredire. C'est ce rôle-là qui est refusé à la femme. De se lever et de dire, mais non, mais moi aussi je pense que si, moi aussi je pense cela. Non, c'est pourquoi on dit qu'elle écoute l'instruction en silence. Parce que c'était permis aux hommes de se lever dans leur synagogue pour dire, mais non, mais moi je pense le contraire. Voilà ma thèse. C'était comme une sorte d'amphithéâtre d'université où chacun pouvait dire ce qu'il pensait. D'ailleurs, c'est ce qui donnait la possibilité au Paul de prêcher. Parce que s'il n'y avait pas cette possibilité, les chrétiens ne pouvaient pas prêcher dans une synagogue. Mais quand les chrétiens entraient dans une synagogue, ils avaient aussi la possibilité de prêcher parce que le travail dans la synagogue se faisait comme ça. Celui qui voulait dire quelque chose devait s'inscrire auprès du chef de la synagogue. Et puis on va l'écouter. Bon, écoute, dis-nous ce que tu penses, ce qu'il y a. Mais maintenant, la femme, il lui est interdit de se lever, de dire, mais non, moi je ne pense pas ceci, moi je pense cela, et de contrer ce que les hommes sont en train de dire.
Mais pasteur, nous tous, on a le Saint-Esprit, que ce soit homme ou femme. On a le
même esprit. Mais quand même, c'est les femmes qui ont amené le monde dans la chute. Mais c'est l'argument que Paul donne, ce n'est pas moi. Mais il explique dans 1 Timothée 2, il dit que c'est les femmes qui ont entraîné, la femme qui a entraîné l'humanité dans la chute. C'est à cause de ça qu'elle ne doit pas prendre autorité. Parce que la foi qu'elle a voulu prendre, voilà où on en est arrivé. C'est ça. C'est écrit, hein? Les gens n'y ont jamais pensé, mais c'est écrit. C'est parce que Paul dit que c'est elle qui a été séduite et a entraîné. Donc, si la femme n'avait pas proposé à l'homme de manger le fruit, l'homme n'allait pas le faire. Paul dit que ce n'est pas l'homme qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite. Et comme elle a pris une position d'autorité sur l'homme en lui disant, mais mangeons, alors qu'elle devait attendre les instructions de l'homme, toute l'humanité a chuté à cause de ça. Donc c'est pourquoi c'est interdit à la femme de prendre autorité sur l'homme.
Donc on n'a pas été pardonné alors?
Non, pardonné, mais vous n'avez pas compris la leçon que c'était l'homme qui était le chef. Voilà, donc il faut comprendre cette leçon une fois pour toutes, au lieu de répéter encore l'histoire d'Ève. Oui, oui.
Je sais qu'il est écrit, c'est interdit à la femme d'enseigner devant l'Assemblée des Saints. Mais ma question est celle-ci. Vous avez dit l'autre fois qu'une femme peut commencer quelque part son ministère en attendant que l'homme vienne prendre l'autorité. Maintenant, quand la femme commence, ce n'est pas une Assemblée des Saints.
Ah si, pourquoi ce n'est pas une Assemblée des Saints?
Parce que la Bible dit la femme doit se taire devant l'Assemblée des Saints.
Mais le Seigneur est souverain, comme avec Déborah, qui était juge, le Seigneur peut faire des exceptions liées à une conjoncture, à une situation donnée. Donc on ne peut pas bloquer le Seigneur. Donc le Seigneur peut faire des exceptions liées à une conjoncture, mais ce sont des exceptions qui ne durent pas longtemps. Comme le cas de Déborah aussi, ça n'a pas duré longtemps. Donc c'est ça, donc on ne peut pas fermer cette possibilité-là. Donc il est possible que dans un endroit, parce que qu'il n'y ait pas d'hommes. Donc vous n'allez pas dire aux femmes de ne plus se réunir parce qu'il n'y a pas d'hommes.
Non, mais les hommes aussi peuvent venir se réunir avec les femmes.
Non, mais s'ils n'y sont pas là.
Non, mais les hommes qui ne connaissent pas la Bible, par exemple, il y a une femme qui parle de Dieu.
Et vont venir enseigner.
Non, les hommes qui ne connaissent pas la parole de Dieu.
Oui.
Mais il y a une femme qui enseigne, qui regroupe des gens. Et il y a des hommes qui viennent participer parce que c'est le début, c'est le commencement.
Non, c'est le commencement, oui. Donc il n'y a pas encore d'homme qui puisse encadrer, dire la parole de Dieu. Oui, la femme peut faire. Comme la femme fait aux enfants. Les enfants, c'est des hommes. Mm-hmm. Les enfants masculins, c'est des hommes. Mais c'est une situation d'exception, vu leur âge. Donc c'est la même manière, de la même manière, lorsqu'on se retrouve... C'est comme le baptême. Il nous est dit qu'il faut être baptisé, mais le voleur à la croix n'a pas été baptisé. Mais il est parti au ciel. Donc, c'est des situations d'exception où Dieu fait comme il veut. Voilà, c'est des situations d'exception.
Et quand vous parlez du baptême, donc une femme peut baptiser un homme?
Dans les situations, oui. Déjà, ce n'est pas interdit dans la Bible.
Oui. Mais je crois que c'est prendre l'autorité.
Prendre autorité, je ne pense pas. Hein. C'est l'homme qui fait son contrat avec Dieu et puis il est baptisé. Cependant, comme ça peut porter à confusion... Je pense que dans une organisation, ce n'est pas à la femme de baptiser les gens. Mais comme je l'ai dit, il y a des situations d'exception. Où il n'y a pas d'homme, la femme peut baptiser.
Amen.
Voilà.
Bonsoir. Je voulais prendre une situation. Par exemple, une femme... Il y a des époux entre eux, elle voit son mari qui dévie, est-ce que ça vient en compte aussi, elle doit le prévenir, est-ce que c'est prendre autorité si on prévient qu'il est dans le péché, ou par exemple dans une assemblée, une femme voit un homme qui pêche, est-ce que c'est prendre autorité si on le prévient?
Non, ce n'est pas prendre autorité, c'est dire ce qui se passe. Ce n'est pas prendre autorité. Prendre autorité, c'est donner une ligne de conduite. Mais qu'une femme dise que là, on vient de voler, ce n'est pas prendre autorité. Elle dit ce qu'elle voit. Ah, là, c'est du vol. Ce n'est pas prendre autorité. Elle dit ce qu'elle voit.
Elle doit le dire à l'homme ou...
Elle peut dire à son mari ce qu'elle pense. Ah oui, oui. Mais ce n'est pas prendre autorité. La prise d'autorité vient quoi? Quand tu imposes, tu dis que c'est ça qu'on doit suivre. On doit faire.
Oui, mais c'est quand même, en disant c'est le péché, c'est quand même une ligne de conduite de dire c'est pas...
Ah non, c'est écrit. Donc tu as volé. Qu'on dise que tu as volé, ou ce n'est pas une prise d'autorité, c'est une constatation.
Ah, moi je croyais que c'était quand même prendre autorité, se dire non, ça c'est pas bien. C'est quand même...
Non, c'est prendre autorité, c'est lorsque tu apportes une instruction à l'autre. Ce n'est pas une constatation. Tu dis à la personne, mais tu devrais quand même te réveiller à 23 heures pour prier. Toi, tu veux conduire la vie de l'autre. Tu veux conduire la vie de l'autre. Mais dire que là, c'est un péché, ce n'est pas conduire la vie de l'autre. C'est faire un constat sur un péché.
D'accord.
Oui.
Excusez-moi, pasteur. Dans le catholicisme, on parle de l'instruction. Et ça veut dire Marie a instruit aux disciples de Jésus au noces de Cana pour chercher les vases et remplir d'eau et faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est pas ça l'instruction.
Déjà, c'était pas des disciples, c'était les gens de la fête. Voilà, donc elle leur annonce Jésus. C'est ce qu'on a dit, que la femme, ce n'est pas interdit à la femme d'annoncer Jésus, de dire aux gens, voilà le sauveur. Ce n'est pas interdit. La femme samaritaine l'a fait, Marie l'a fait, et bien d'autres l'ont fait avec Paul.
Et la petite deuxième question, c'est pas que Adam a perdu son autorité devant Ève en acceptant le fruit qui a conduit au péché originel?
Non, temporairement, en ce moment-là, il a perdu son autorité. Mais c'est lui que Dieu avait établi et Dieu, il a repris ça. Hein. Il n'a pas perdu définitivement.
Alors pourquoi Jésus s'est apparu pour la première fois le jour de sa résurrection, premièrement aux femmes pour aller dire aux autres que je suis ressuscité?
C'est le choix de Dieu.
Amen.
Ok.
Pasteur, en fait hier tu disais que dans un couple où par exemple l'homme n'est pas en fait mature spirituellement, que la femme ne doit pas, enfin je ne sais pas si j'ai bien compris, que la femme ne doit pas en fait prendre la place de l'homme. Je ne sais pas, j'ai pas bien compris.
On n'a pas posé, on m'a pas posé cette question aujourd'hui en tout cas. Dans un couple.
Ma question, c'est en fait, je sais pas, dans un couple où l'homme n'est pas mature spirituellement, est-ce que la femme peut donner la ligne de conduite?
Mais il y a plusieurs cas dans quand on dit l'homme n'est pas mature spirituellement. Est-ce qu'il est chrétien ou pas? Voilà, donc il y a plusieurs cas. Si c'est un païen, mais la femme lui annonce Jésus, c'est tout.
Mais si c'est par exemple un couple où par exemple le monsieur est disons
un chrétien, c'est un chrétien,
mais qui n'est pas dans son autorité en tant que chrétien.
Mais c'est un chrétien.
Voilà un chrétien.
Ah ben il y a des autorités dans l'Église qui peuvent l'enseigner.
Mais comment la femme doit agir par exemple dans la maison par rapport à tout ce qui est tout ce qui concerne soit la prière ou je sais pas.
Elle peut proposer la prière, c'est pas prendre une instruction.
D'accord.
C'est proposer un temps de communion fraternelle. Mais c'est là où ça devient une instruction, là où elle prend autorité, c'est lorsque lui dit je suis fatigué, elle dit mais elle s'énerve et elle impose. Là, elle veut prendre autorité, elle veut s'imposer. Mais proposer, ce n'est pas imposer. Donc la femme peut proposer. Oui.
Oui, en fait, je voulais savoir, parce que dans la prédication, tu as dit qu'il y a certaines femmes qui se sont précipitées dans le mariage alors qu'elles n'avaient pas cette notion de mère. Du coup, en fait, je voulais savoir la notion de mère dont tu parlais, en fait, est-ce que c'est parce qu'elles n'avaient pas cet esprit de sacrifice ou elles n'ont pas assez grandi dans la sainteté, dans la foi, en fait, c'était par rapport à quoi?
Que cette femme n'avait pas cette notion-là?
Oui.
Non, c'est par rapport à la maturité spirituelle. Et par rapport au temps de Dieu, donc Dieu faisait un travail dans leur vie, mais elles n'ont pas attendu que le travail soit fait, elles sont entrées dans le mariage. Et c'est là que ça devient calvaire, parce qu'elles n'ont pas cette maturité-là à vivre comme une mère.
En fait, quand tu dis vivre comme une mère, c'est... Parce que...
En bref, il y en a qui ne pensent qu'à limer les ongles, faire ceci, s'habiller, faire... Donc... aller au cinéma, donc il n'y a pas l'idée que j'ai des enfants.
Mais si elles n'en ont pas.
Si elles n'ont pas des enfants, il n'y a pas cette idée-là que je suis une mère pour l'humanité, donc je dois contribuer dans la société, dans l'église, comme si j'avais des enfants. Les enfants des autres, c'est comme si c'était mes enfants. Voilà, vivre comme ça. Il n'y a pas ça. On retrouve ça, par exemple, dans l'éducation nationale, dans les maternelles, dans les écoles maternelles, il y a des femmes qui ont vraiment cette vocation-là. Tu vois qu'elle vient de la sortie avec les enfants, ce ne sont pas ses enfants, mais tu sens que et c'est comme si elle a repris vie, quoi. Donc, vous voyez la maîtresse qui revient de la sortie, elle est contente. Donc, elle a vraiment la vocation d'être maîtresse, de s'occuper des enfants. Donc, elle est contente de vivre avec les enfants. Mais pourtant, ce ne sont pas ses enfants. Donc, c'est ainsi que une femme qui est dans l'attitude de mère va avoir cette joie-là de voir, par exemple, les gens manger. Mais une femme qui est là, qui ne sait plus cuisiner, elle est là à chercher seulement à ce qu'on l'invite au restaurant. Donc, il y a un problème.
D'accord.
Voilà, il y a un problème. Il n'y a pas une attitude de mère.
Et en deuxièmement, je voulais savoir, en fait, tu parlais de femmes querelleuses. Et La femme querelleuse, en fait, c'est celle qui veut se justifier.
Tout le temps voit raison. Tout le temps voit raison. Tout le temps, il faut que ce qu'elle veut, que ce soit ça qui passe.
Mais elle peut se justifier.
Mais quand c'est tout le temps, c'est une querelleuse. On peut se justifier une fois comme ça, deux fois comme ça. Mais quand c'est tout le temps, c'est une querelleuse.
Parce que quand on dit querelle, en fait, c'est comme si tu cherchais la dispute.
Non, elle fait un problème de tout. Voilà, elle fait un problème de tout. C'est ça, une femme querelleuse. Problème de tout.
D'accord.
Et surtout qu'on lui reproche qu'elle pas quelque chose. Parce qu'après, elle va observer. Mais toi aussi, tu fais ça. Voilà, donc c'est une femme querelleuse. Donc, c'est le contraire de celle qui se met en silence et qui laisse son Dieu faire. C'est ce qu'on dit de Sarah. Donc, pour bien comprendre l'inverse, le contraire, il faut lire dans 1 Pierre 3 ce qu'on dit de Sarah, comment Sarah se comportait en considérant Abraham comme son Seigneur. Voilà, c'est le contraire de ça, c'est une, en général une femme qui elle va devenir querelleuse. Donc, elle ne s'attend plus à Dieu. Elle s'attend à sa propre intelligence pour régler les problèmes. Et là, ça va finir dans les querelles. Oui.
Oui, pasteur. Bon, voilà une femme qui a laissé son... Enfin, son mari l'a laissé, ça fait 17 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas voulu aller à l'église catholique. Elle n'a pas voulu faire les cérémonies des Noirs. Elle n'a pas voulu faire beaucoup de choses qui vont pas dans la parole de Dieu. Et moi, je me demande... je me dis que... qu'est-ce qu'elle doit faire ? Bon, c'est vrai qu'elle prie. Et elle a, son mari a demandé divorce et elle n'a pas accepté.
Voilà, donc elle attend. Que Dieu agisse maintenant.
Ouais.
Voilà.
Okay.
Et entre-temps, 1 Corinthiens 7 nous dit, les temps sont durs, que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés.
D'accord.
Donc, en attendant, elle vit comme si elle n'était pas mariée.
Ok.
Voilà. Oui.
Moi, je voulais savoir par rapport quand on donne son avis, par exemple, à son mari, et que, par exemple, si le mari ne suit pas et... on prie et parfois la situation fait que le mari, par exemple, il ne suit pas, il prend quand même sa décision et il y a des conséquences derrière. Et pourquoi si on a, entre guillemets, raison, j'imagine, hein, moi, j'ai raison, mais derrière nous, on doit subir les conséquences parce que le mari, il n'a pas pris la bonne décision et puis, ou parce qu'il ne veut pas écouter. Donc à chaque fois, on subit les conséquences,
Quand les conséquences sont là, on crie à Dieu. On crie à Dieu et le Seigneur viendra nous sauver parce que nous sommes la fille de Dieu. Il viendra nous sauver de ces conséquences-là et il va crier sur le monsieur. Voilà.
Oui, mais il aurait pu crier sur le monsieur avant qu'il prenne sa décision plutôt que de crier les conséquences derrière.
Là,
quoi.
Là, nous allons dire ça pour tout. Hein. Tout ce qu'on voit dans le monde, les injustices, coup d'État en Ukraine. On va dire ça pour tout. Pourquoi Dieu n'a pas empêché ça ? Pourquoi Dieu n'a pas empêché ça ? C'est la même chose.
Non, c'est pas pareil parce que nous, on peut pas donner, on peut pas prendre autorité. Donc, on peut pas prendre la décision. Achète du pain, prends une baguette. Non, prends du pain, prends la baguette.
Non, mais c'est la même chose. Que nous, lorsque nous voyons le mariage pour tous passer, on aurait bien aimé que ça ne passe pas. Mais c'est passé, nous subissons ça. Et nous crions à Dieu qui nous sauve quand même de cette situation. C'est la même chose. Donc la femme, elle a une position, le mari n'a pas cette position. Elle doit se soumettre à la position du mari. Et s'il y a des conséquences négatives, elle crie à Dieu. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes en train de crier à Dieu pour tout ce qui se passe dans le monde. C'est la même chose. Donc il y a des choses, il y a des autorités qui sont établies. Il y a des présidents qui sont là, ils prennent des décisions, ça ne nous arrange pas. Mais puisque c'est des autorités, nous nous soumettons et c'est comme ça que la femme doit se comporter par rapport à son mari. Comme Sarah se comportait.
Pasteur ?
Oui.
Moi, je voulais savoir, pourquoi les femmes ont le droit de porter des boucles d'oreilles ?
Par rapport à 1 Timothée 2, là, qu'on vient de lire.
Non, je ne sais pas, parce que tous les autres bijoux ils sont interdits. Sauf les femmes, je les vois avec des boucles d'oreilles, mais pourquoi elles ont le droit ?
Ah, parce que pourquoi elles ont le droit de porter des boucles d'oreilles ?
Ouais.
Ah, mais je ne sais pas si. Mais quels autres bijoux sont interdits ? Je n'ai pas compris.
Bah, je ne sais pas, parce que par exemple, si une femme a un piercing au nez, ça va être mal vu, je ne sais pas. Mais je les vois
avec des boucles. Non, mais c'est mal vu, pourquoi ? C'est mal vu parce que ça vient de l'Inde et qu'il y a plein de choses liées aux religions orientales. C'est à cause de ça.
Donc les boucles d'oreilles aussi, ce n'est pas bien pour les femmes alors ?
Non, pourquoi ?
Bah, je ne sais pas.
Non, je demande. Là, moi, je t'ai donné une raison. Toi, tu me dis, tu ne sais pas. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Aujourd'hui, si une femme porte une chaîne à son doigt, on ne sait pas. Du moment qu'on ne sait pas, elle fait ça pour sa décoration. Ça, c'est la décoration. Mais si on sait d'où ça vient, l'histoire du piercing, c'est parce qu'on sait d'où ça vient. Oh, ça vient de l'Inde. Ils ont une divinité qui a ça. Et c'est à cause de ça que nous ne sommes pas chauds. Mais ce n'est pas que... La Bible ne s'intéresse pas à ce genre de choses pour dire ça c'est interdit, ça ce n'est pas interdit. Mais il y a des choses que nous, nous évaluons en tant que chrétiens, nous interprétons en fonction de ce que nous savons des réalités d'origine et de ce que dit la parole. Nous donnons une position. Mais ce n'est pas la Bible qui va dire, mais c'est pas ça, c'est interdit, ça, c'est faut mettre de tel côté ou non, non. Ça, c'est... Ce que la Bible refuse, c'est qu'une femme cherche à exister par l'apparence. C'est ce qu'on a lu dans 1 Timothée 2, qu'elle ne sépare pas. Donc, il ne faut pas que ce soit ça qui soit la démonstration qu'elle est femme. La femme, ce n'est pas celle qui se maquille le plus ou bien celle qui met les plus de bijoux. La femme, c'est celle qui se comporte comme Sarah. Voilà ce que la Bible... C'est pas un débat sur les bijoux, mais c'est un débat sur la façon de chercher à vivre son côté femme. Ce n'est pas en se parant d'habits somptueux, mais c'est en se parant d'un bon comportement. Oui.
Pasteur, par rapport à le fait d'avoir en fait l'attitude de mère, c'est vrai que des fois il y a même par exemple, disons un enfant fait une bêtise, on le reprend. Qu'on ait des enfants ou pas, mais or des fois il y a des parents qui n'aiment pas ou qui vont mal prendre le fait que tu vas reprendre l'enfant ou qui vont même pas soit t'appuyer, tu sais en fait devant l'enfant et l'enfant disons va continuer à faire des bêtises. Mais comment réagir face à ça? On peut pas ne pas s'empêcher de soit reprendre un enfant que parce qu'on se dit aussi quelque part, on est responsable d'un enfant, même si, disons, la maman n'est pas là. Mais comment
Non, comment on se comporte comme les maîtresses d'école. Elles ont fait, même si le parent est mécontent, elle a fait son travail. Donc nous aussi considérons que, même si les parents sont mécontents, nous au moins, on a fait notre travail de reprocher à l'enfant son mauvais comportement. Et la vie, c'est comme ça. Parfois, on est brimé pour avoir fait de bonnes choses. On supporte, c'est le brisement.
Est-ce que le verset de 1 Corinthiens 7, justement, que tu as cité, que désormais ceux qui sont mariés se considèrent comme non mariés, tout ça, parce que quand est-ce que c'est que dans les temps difficiles, ou bien parce que quand tu dis qu'il faut regarder à Sarah, Sarah, elle s'occupait de. Voilà. Est-ce qu'elle se comportait comme ça, Sarah?
Mais oui, c'est ça qui est cité dans 1 Pierre 3.
Oui, mais est-ce qu'elle se comportait selon 1 Corinthiens 7, là, qui dit que justement, comme le temps est court, que désormais, ceux qui ne sont pas mariés...
Non, mais Sarah n'avait pas de problème avec Abraham. Là, le verset 1 Corinthiens 7, c'est pour nous dire ceci. Les temps sont difficiles. Mm-hmm. Ne cherche pas à ce que ton mariage devienne les enfants scots là de la télé ou le feu de l'amour ou je sais. Non, si il ne faut pas que ton salut prenne un coup à cause de la perfection que toi tu veux porter dans ton mariage, quoi. Voilà. Donc s'il faut que ton mariage soit difficile pour toi, garde quand même ton salut, parce que souvent on veut arranger les choses par la force et on peut même se compromettre parce qu'on veut arranger. On veut que notre mariage devienne comme le feu de l'amour qu'on voit à la télé. Non, il faut être prêt à garder son salut, même si son mariage en souffre. Donc, on doit garder notre salut. Donc, vivre comme si on n'était pas marié, c'est ça. C'est-à-dire que tu rentres de chez toi, ben, normalement, tu t'attends à ce que tu trouves le repas cuisiné, mais la personne est devant le solitaire sur l'ordinateur. Au lieu que tu t'énerves, tu donnes un coup, c'est ce qui est dit, considère que tu n'es pas marié. Donc pense à quand tu étais étudiant, fais-toi une omelette et puis... Donc bonne nuit, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, si tu veux, Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas dire que je m'attendais à quelque chose. Tu t'attendais à quelque chose, mais que ça ne t'amène pas à te fâcher et à mettre en danger ta spiritualité parce que l'autre n'a pas honoré son côté du mariage. Donc tu dois garder ta spiritualité, même si l'autre n'honore pas son côté du mariage. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas reprocher. On peut toujours reprocher, mais pas que ça nous amène, nous, à détruire notre spiritualité.
D'accord, voilà. Mais tu continues à faire ça tout en jouant ton rôle de femme, de mère, quoi.
Non, mais, oui, c'est ça.
C'est ça.
Oui. Oui, tu fais comme si tu n'étais pas mariée, mais toi, tu fais de ton côté ce qu'il faut, mais pour ce que tu attends de l'autre, tu fais comme s'il n'était pas là. Voilà. Puisque si tu y penses trop, ça t'énerve et ça te crée des problèmes dans ta relation avec Dieu. C'est ça. Mais c'est vice-versa, hein, c'est pour tout le monde. Oui.
Pasteur, moi je voulais savoir, le dimanche vous avez dit que les mamans, quand ils disent quelque chose, ils murmurent sur les hommes et ça peut leur causer du tort. Donc il faudrait que les hommes évitent cela. Mais en même temps, vous dites que nous, femmes, on ne doit pas prendre autorité sur les hommes. Par exemple, si on voit que les choses ne marchent pas bien ou ils ne prennent pas de bonnes décisions, on ne doit pas leur dire non, faites ça, faites ci. Mais
non, on n'a pas dit ça. On a dit que vous pouvez donner votre avis, mais si le monsieur ne bouge pas, donc vous laissez tomber.
Mais en même temps, pasteur, si on laisse tomber, mais après on va murmurer, ou bien même si on ne murmure pas, s'il faudra que
parler. Mais justement, il ne faut pas murmurer, il faut appliquer la parole.
Oui, on ne va pas murmurer, je suis d'accord avec vous, on va aller prier, mais on va exprimer à Dieu notre amertume, notre
douleur. Et ces prières à lui vont être bloquées.
Mais en même temps, si c'est bloqué, nous on est une famille, on est dans une maison.
On criera à Dieu et Dieu interviendra. Mais que lui va constater qu'il est bloqué quand même. Donc, 1 Pierre 3,7 dit que l'homme doit faire attention à la femme. Sinon, donc s'il n'est pas sage par rapport à la femme, ses prières à lui seront bloquées. Donc, on va lire ça. Donc, quand, si vous murmurez, eh bien, les prières du monsieur est bloquée. Maintenant, quand les conséquences tombent sur toute la famille, vous criez à votre papa. C'est votre papa. Vous dites que non, mais c'est le monsieur qui a fauté, mais nos enfants ne doivent pas subir ça. Fais quelque chose, lui va fermer, le monsieur va constater qu'il s'était trompé. Voilà.
D'accord, pasteur, mais en même temps, les enfants aussi sont innocents, tout et tout, mais on va subir, nous tous, quoi.
On va subir?
Bah oui.
Non, on va pas subir, on va crier à Dieu.
Oui, je suis d'accord, on va crier, il va répondre, mais...
Voilà, c'est ça. Non, on va pas subir.
En entendant la réponse de Dieu,
la réponse peut être demain, directement. Le lendemain.
D'accord.
Mais Dieu va permettre que la personne se rende compte qu'elle a pris un mauvais chemin. C'est ça. Dieu permet ce blocage pour que le monsieur se rende compte qu'il a pris un mauvais chemin. Mais vous allez contribuer. C'est ça aussi l'esprit de sacrifice. Vous souffrez 3 jours pour que lui comprenne son erreur.
D'accord.
Voilà. C'est ça. 1 Pierre 3,7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà. Rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, quand un homme néglige sa femme, eh bien, ses prières sont bloquées. Donc, les femmes ne doivent pas se sentir comme. Défavorisé, pas du tout, c'est l'ordre de fonctionnement de Dieu, c'est pour permettre l'unité et l'action de Dieu. Ça permet aussi la foi. Donc on compte sur Dieu pour agir et non pas sur notre intelligence ni sur nos efforts. Oui ?
Oui, c'était sur une réflexion en fait par rapport à cette situation-là qui dit que celui qui et marié doit vivre comme s'il n'est pas marié. Donc c'est et vice-versa, hein. Donc homme et femme. Ça s'adresse aux deux. Ça s'adresse, parce qu'on a souvent l'impression que ça s'adresse qu'aux hommes.
Oui, non. Tel que c'est écrit, hein, ça s'adresse c'est écrit pour les hommes. Que celui qui a une femme vive comme s'il n'avait pas de femme. Voilà. Mais le salut, c'est pour tout le monde. Hein. Ça s'adresse
aux
femmes aussi en même
temps. Aux femmes aussi.
Voilà. Mais donc, il ne faut pas. Parce qu'on veut tellement avoir un mariage humainement beau, compromettre son salut. Donc on veut tellement que ça se passe bien qu'on est prêt à s'énerver, à injurier, à menacer de divorce, tout ça, parce qu'on veut tellement que l'autre soit comme nous on veut. Et là, on menace notre vie spirituelle à cause du mariage. Non, vis comme si tu n'étais pas marié, conserve ta vie spirituelle, conserve ta relation avec Dieu.
C'est vrai que finalement, dans la réflexion, on peut se dire, mais à quoi ça sert de se marier finalement?
À quoi ça sert de se marier? C'est accomplir la volonté de Dieu. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et trouver aussi le bonheur, parce que c'est dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais le problème, hein, c'est que ce n'est pas un bonheur qu'on a comme quand tu as un morceau de sucre. Donc c'était tout de suite bon. C'est un bonheur qu'on construit. Voilà. C'est que beaucoup sont surpris. Ils disent, oh, mais je pensais trouver le bonheur. Mais non, tu as trouvé, des ingrédients. Maintenant, tu dois cuisiner pour que ça devienne du bonheur. Donc il y a un travail à faire pour que ça devienne du bonheur. Ce travail-là, c'est avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu.
Oui, c'est ce point-là que je trouve qu'il est intéressant à soulever. Voilà. Surtout pour tous ceux qui veulent absolument se marier parce qu'ils pensent que c'est une fin. Et au final, on ne réfléchit pas en se disant que c'est quelque chose qu'on construit. Et là, on construit quelque chose.
Voilà, souvent, jusqu'à la mort.
Que, voilà, on est arrivé à quelque chose, le mariage, et puis voilà, la personne elle va rester tout le temps comme ça, ne va pas changer, ne va pas bouger. Mais ne réalise pas que c'est la confrontation aussi de deux êtres.
Voilà, mais il suffit d'être là. Toi, tu penses à manger une poire et l'autre est au marché. Dit, une pomme, ça va arranger mon mari. Mais c'est une possibilité. Hein. Toi, tu dis, mais si je pouvais manger une poire, l'autre pense à une pomme. Et donc, elle amène la pomme. Mais moi, je pensais que tu... Mais comment moi, je pouvais entrer dans tes pensées? Ça peut créer une dispute. C'est là qu'on doit dire, bon... Je fais comme si la pomme, c'était une poire. C'est tout. Et tu construis. C'est un bonheur que tu as construit toi-même. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, mais ça se construit.
Voilà. Un autre point de réflexion, c'est, j'entends de temps en temps des femmes qui parlent et qui disent, oui, mais une femme, il faut qu'elle soit quand même coquette. Et ma question, c'est savoir, quelle est la limite entre ce qu'on peut appeler la coquetterie et ce qu'on peut appeler la simplicité.
Non, mais c'est comme si ce qu'on a dit le dimanche. C'est comme on disait, il faut suivre Top Chef pour manger. Non, Top Chef, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Est-ce qu'on ne mangeait pas? On mangeait. Donc, coquette, mais c'est logique, tout le monde doit être propre. Est-ce qu'on doit nous dire qu'il faut être coquette? Donc, il faut plutôt dire aux gens, tu es sale, au lieu de dire à quelqu'un que tu es coquette, parce que que l'on soit propre, c'est évident que tout humain doit être propre. Donc, au lieu de dire à une personne, mais il faut que tu sois coquette, il faut dire plutôt, non, là, tu es sale. Voilà. Et ce sont des choses de la vie. Donc, tout humain devrait y penser. Ça ne doit pas être un sujet d'enseignement. Il faut être, comme on voit dans des séminaires, il y a des gens qui font des séminaires pour expliquer aux femmes comment elles doivent se laver, comment elles doivent... Ce sont des choses normales. Donc, il faut plutôt reprocher à quelqu'un quand il ne fait pas ces choses-là, dire, tiens, là, tu as un souci. Bien-aimé, je vais vous donner un exemple très simple. À l'armée, est-ce que la propreté n'est pas exigée? N'est-ce pas quand on voit... Les soldats, quand ils respectent, mais ils sont beaux et propres, parce que ce sont les instructions de l'armée. Il faut que tu te rases, il faut que ta tenue soit bien repassée. Voilà. Mais ils sont très présentables quand on voit les généraux, les soldats dans leur tenue. C'est une chose liée à la propreté, liée au monde. C'est normal qu'on soit beau, qu'on se présente bien. Quand on voit nos ministres à la télévision, ils sont toujours bien habillés et propres. C'est une chose normale. Maintenant qu'on en fasse une histoire spéciale, comme si on devrait suivre une voie nouvelle. Non, ça c'est du mensonge, le mensonge de Satan. C'est de la distraction. C'est une chose normale. Tout le monde devrait être propre. Si les soldats qui vont faire la guerre sont propres, alors à combien plus forte raison les humains normaux qui n'ont pas de guerre à faire, donc qui ont besoin d'être présentables toute la journée. Non, je crois que c'est quelque chose de logique. Nous devons être propre et nous devons être beaux parce que notre Seigneur a fait de nous des créatures merveilleuses. C'est logique. En faire un séminaire, je pense que ça c'est des séminaires qui viennent du monde des ténèbres. Quoi. C'est pas normal. C'est pas normal.
Pasteur.
Oui.
Dimanche, vous avez dit, quand une femme me rencontre vous, elle peut vous maudire, c'est ça?
Si une femme te maudit, c'est très dangereux.
Mais c'est toutes les femmes ou...
mais en fonction de l'autorité, mais déjà la maman, ta maman, c'est ta maman, le plus. Si ta maman te maudit, c'est très très dangereux parce que les malédictions, c'est lié à l'action que la personne a eu à faire sur ta vie. Si la personne t'a fait beaucoup de bien, si elle murmure contre toi, ben il y a en contrepartie une grosse malédiction sur toi aussi. Donc c'est déjà les mamans, c'est très 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 dangereux qu'une maman maudisse ses enfants parce que après ils sont vraiment bloqués. On a pris un exemple très simple. Si le mari n'honore pas la femme, ça va faire obstacle dans ses prières. Mais combien plus frustrant une femme, un enfant qui n'honore pas sa mère. Ça c'est encore plus grave.
Mais par exemple, quand je dis ça, quand je dis toutes les femmes, c'est par exemple, tu es en train de faire les courses et je t'embrouille avec une dame. Et elle dit, elle murmure contre toi, par exemple.
Mais justement, il ne faut pas s'embrouiller avec les dames. Donc quand on fait les courses, voilà. Quand une dame te menace, tu t'effaces. Il faut jamais, un homme ne doit jamais s'embrouiller avec une dame. Voilà. Okay. Donc dès qu'une dame te menace, tu la laisses crier, tu te tais, tu pars. Voilà. Il ne faut jamais polémiquer avec les femmes. Il faut les respecter. Oui.
Par rapport à ce que disait Fred tout à l'heure, je ne sais pas si... Enfin, moi, je n'ai pas bien compris la différence entre coquette et propre. Enfin, quand tu as répondu...
Différence, c'est un excès de... Voilà, de...
Parce que propre, il y a... Bon, là, propre, c'est le contraire de la saleté, mais coquette et beau, ça ne veut pas dire la même chose que propre.
Non, aujourd'hui, quand on dit que les femmes donnent l'argument, mais une femme doit être quand même coquette, ça veut dire plus que propre, je crois.
Donc, voilà, parce que coquette, moi, je le comprends comme ou coquet. On met des boucles d'oreilles, on se fait joli, quoi, pour être agréable à regarder. Donc, c'est pas être propre.
Agréable à regarder, c'est pas bon, ça.
Non, mais on peut être agréable à regarder et sale.
J'ai pas compris.
On peut être agréable à regarder.
Oui, mais chercher à être agréable à regarder, c'est pas bon.
Voilà, parce qu'en
fait... Voilà, qu'on le soit, naturellement, comme les paysages n'ont rien cherché, c'est beau à regarder. Mais qu'on le cherche quand on est une femme ou un homme, c'est pas bon. Il faut être présentable, propre. Je vais donner un exemple simple. Les soldats, les policiers, ils ont des instructions pour être propres. Voilà.
Donc nous, les femmes qui mettons des boucles d'oreilles ou des bagues ou des choses comme ça, si on va dans le fond des choses, ou même les hommes, on cherche à être beau ou à être belle.
Non, être beau, c'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est de dire, ah, on va me regarder. C'est ça.
Oui, mais si on le fait, c'est pour être regardé.
Ah non, pas du tout.
Ben, c'est pourquoi alors?
Non, pour être beau.
Mais pour être beau pour qui?
Mais pour toi. Non, pour toi, tu es beau pour toi, puisque tu...
Alors, pour aller dans le fond des choses, si on veut être beau pour nous, pour soi-même, chez nous, enfin, je sais pas, à moins que je sois une exception...
Et ne pas être aussi une occasion de chute pour les autres, parce qu'en voilà. Étant sale, on est aussi une occasion de chute, hein. Voilà, donc on ne veut pas non plus être une occasion de chute, que tu viennes, mais il vient avec une barbe hirsute, donc c'est...
Non, mais ça, c'est là, c'est quand on va dans l'extrême, mais sinon...
Bon, après,
on est dans une société, de toute façon, dans une société où l'apparence est importante. C'est important. Donc
c'est
on a
pourquoi
été
il ne faut pas
là-dedans.
Être une occasion de chute pour les autres.
Voilà,
tu es une femme, quand tu vis, on a l'impression que c'est un commando. Non, c'est, tu deviens une occasion de chute, là. Voilà, tu es comme un militaire, quelqu'un qui va à la guerre. Là, tu deviens une occasion de chute. C'est pourquoi, dans ce cas, il y a le paramètre des autres qui vient en compte. Mais chercher à ce qu'on nous regarde, non, ça, c'est pas bon. Voilà, donc il faut être propre, présentable pour la société. Dieu nous a créés pour être beau, pour être bien, pas pour être sale et autre.
Voilà, donc coquet, c'est pas forcément... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que coquet et propre, parce que coquet, pour moi, ça ne veut pas dire forcément propre. Peut-être que c'est une façon de parler en France qui est différente en Afrique. Peut-être qu'on va dire coquet pour dire propre.
Ah non, moi justement, moi j'ai dit que c'était différent.
D'accord, ok.
Mon intervention, c'était de dire que ce qu'il faut, c'est être propre.
Parce dire que Frêle, il parlait de coquet.
Oui, au fait, Frêle a dit, il y a des femmes qui prennent l'argument suivant, mais il faut qu'on soit... une femme doit être coquette. Donc pour dire, il faut qu'elle s'habille, il faut qu'elle fasse ceci, il faut qu'elle attire, il faut qu'elle brille, en quelque sorte. Moi, j'ai dit non. Ce qui nous est demandé, c'est d'être propre. Voilà, ce qui nous est demandé, c'est d'être propre. Et c'est naturel qu'on s'habille bien, c'est naturel. On ne doit pas faire un séminaire pour apprendre aux gens à bien s'habiller, à briller. Non, c'est naturel.
Juste une question par rapport à ce que tu disais. Effectivement, la malédiction d'une mère, c'est important, mais la malédiction d'un père aussi.
Toutes les malédictions sont mauvaises. Mais il faut savoir que dans toute chose, il y a des niveaux. Et le fait qu'une mère t'a enfanté et que si elle parle mal sur toi, ça a beaucoup plus d'effet parce qu'elle a beaucoup donné pour toi.
D'accord.
D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, à ceux qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. On demandera beaucoup. Oui.
Merci, pasteur. Je voulais d'abord intervenir par rapport à ce que la sœur disait. Ici, dans 1 Pierre 3:3, il dit « Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. » Et puis, il dit « Cherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. »
Ok.
Ma question, c'est comment dans un couple... Par exemple, un homme est chrétien et la femme est païenne. Comment ils doivent vivre? Quel comportement doit afficher l'homme?
L'homme est païen?
Non, l'homme est chrétien, la femme est païenne.
Ils doivent faire avoir le comportement de celui qui se sacrifie pour le salut de l'autre. Ça sera une vie de sacrifice. Vice-versa, hein, c'est une vie de sacrifice. En fait, c'est la place que Jésus avait pour nous. Donc toi, tu vas avoir la place de Jésus. Et donc te sacrifier pour l'autre, pour son salut.
On a parlé que quand une femme maudit un enfant, c'est très dangereux. Et l'homme, un père qui a l'habitude de maudire.
Mais il y a aussi un verset de la Bible qui dit « La malédiction sans cause n'a point d'effet. »
Okay.
Voilà. Toutefois, oui. Toutefois, lorsqu'on n'est pas chrétien,
oui.
Même la malédiction sans cause peut agir.
Peut agir.
Ah oui, puisque c'est ton père... Il te maudit, tu n'es pas chrétien. Les forces des ténèbres se saisissent de ces paroles pour travailler contre toi.
Mais si tu es chrétien...
Ça n'a pas d'effet.
Ah, ok.
Voilà.
Voilà, mon intervention, c'est un tout petit peu en décalage. Hein. C'est par rapport à la vie du couple. Une fois, tu avais fait une remarque selon laquelle, en fait, lorsque dans la famille, le Seigneur révèle quelque chose à l'un des deux, souvent, il appartient à cette personne qui a constaté, en fait, cette chose-là, de mettre cela en pratique. Et moi, personnellement, ça m'a interpellé et j'aimerais bien revenir là-dessus. Parce que, c'est vrai que moi, personnellement, je suis un peu tatillon sur certaines choses. J'aime bien que certains objets soient à telle place. J'aime pas voir une petite tache sur une porte, etc. Et moi, souvent, à l'époque, j'aimerais bien que ça soit plutôt ma femme, à l'époque, en fait, qui s'en charge. Bon, c'est vrai que les femmes sont vraiment très prises aujourd'hui, hein, de nos jours. Et quelquefois, il m'arrive de murmurer un tout petit peu. Et depuis que tu nous as fait cette remarque-là, j'ai compris que dorénavant, lorsque je vois quelque chose, c'est à moi de le faire.
D'accord.
Et systématiquement, je le fais. Lorsque je vois une tâche quelque part, je prends ma serpillière pour le faire. Voilà.
Gloire à Dieu.
Et donc, voilà, je l'assume.
Amen, amen.
Je ne murmure plus. Ouais. Donc, en fait, c'est plutôt un conseil que je donne aux autres, quoi. Amen.
Voilà, c'est ça, vivre comme si on n'était pas marié. Ok. Oui. Qui a le micro? Oui, je vous.
Ah ben en fait, moi, ça suivait un petit peu ce que disait Simon. Parce qu'en fait, quand on a donc son rôle de mère, mais qu'on a aussi, quelquefois, par exemple, quand on a plein d'enfants en bas âge, qu'on est un petit peu débordé, mais qu'on essaye de faire son bon rôle de mère, et que d'un autre côté, on voit son mari qui est patient, parce que, bon, il sait qu'on n'est pas des superwomen, mais qu'on voit que d'un autre côté, il n'est pas dans le bonheur, alors que nous, une femme doit aussi rendre son mari heureux. Je dirais, quelle priorité on doit nous donner, je dirais, presque.
Je crois qu'on doit prier pour que... parce qu'on doit définir où se trouve le problème. Là, tu es dans l'incapacité de satisfaire deux groupes. Mais il y a un groupe prioritaire, c'est les enfants. Parce que les enfants n'ont jamais demandé à venir au monde. Donc, ils ont la priorité. Donc, maintenant, le mari ou la femme, nous devons prier pour qu'ils comprennent cette priorité-là.
Je ne dis pas qu'ils ne le comprennent pas, mais oui, d'un autre côté, nous, on ne remplit pas
phase,
à fond.
Qu'on soit en phase.
On ne fait pas notre rôle à fond.
Je comprends ce que tu veux dire, mais qu'on soit en phase, on doit prier pour ça. Pour qu'on soit en phase sur cette réalité-là, que la priorité, c'est les enfants quand même. Et puis, Dieu va agir pour nous. Voilà, on doit prier pour ça. Oui.
Mais depuis tout à l'heure, tu dis c'est dangereux quand une femme maudit ou...
Mais pourquoi ça vous dérange?
La question c'est, mais en tant que chrétien, on ne peut pas maudire quelqu'un, enfin je comprends
mais
pas.
Mais si elle se fâche, ça peut arriver, en tant qu'humain, ça peut arriver qu'elle se fâche.
Oui, mais donc dans ce cas-là, si elle maudit, que...
Elle doit corriger après vite.
Oui. Elle doit demander pardon, elle doit se repentir, c'est ça que je...
Auprès de Dieu, oui.
Ah ok, c'est,
voilà.
C'est
donc, ça. Mais entre-temps, si elle ne se repent pas, c'est très très dangereux parce que c'est la maman. Elle t'a porté 9 mois, il faut comprendre, quand vous avez le ventre ballonné, comment ça fait mal. Donc maintenant, pendant 9 mois de vomissement, de faire la cuisine en même temps... C'est trop dur. Donc, une personne comme ça, si elle te dit de mauvaises choses, tu es cuit. Mais c'est vrai, tu es cuit. Parce que c'est difficile d'enfanter, c'est difficile. Voilà. Oui.
Alors, à ce moment-là, si on pose la question sur, comme lui a dit, quand la maman est fâchée, elle te maudit, et là, elle perd le sens de la mère.
Ah oui, elle a fait une faute. Elle doit se livrer, se donner pour ses enfants. Oui, elle a fait une faute. Mais n'empêche que ça va agir quand même.
Alors, pasteur, donc quand vous parlez de l'amour d'une mère, et c'est différent de l'amour du Christ?
L'amour
du Christ?
Non, je ne comprends pas la question. Nous tous les chrétiens,
oui.
Nous devons aimer comme Christ a aimé. Voilà. Maintenant, quand on parle de l'amour d'une mère par rapport à la femme, on n'a pas tous le même rôle dans la société. Le pasteur de l'église n'a pas le même rôle que tous les diacres. Même si nous tous chrétiens, on doit appliquer la parole qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais le pasteur, quand il rentre, il prie pour les gens qui ont des difficultés chez lui. Il les considère comme ses propres enfants. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas demander ça à tous les chrétiens d'aller rentrer à la maison. Ils n'auront même pas cette onction-là, cette capacité. Ils n'ont pas cette présence d'esprit-là. Donc, on ne peut pas leur exiger. Mais pourtant, ils ont un amour de Christ pour tout le monde. Donc, maintenant, on a des rôles différents. La femme aussi a un rôle. Dans cet amour pour Christ, elle a son rôle particulier.
Alors, comme... Christ nous demande d'aimer nos ennemis. Quand la maman arrive à maudire son enfant, à qui est-ce que l'enfant est considéré en ce moment-là?
À qui?
Est-ce que l'enfant est considéré? Quand la maman arrive à maudire son enfant, ça veut dire l'enfant pour la maman en ce moment-là est considéré comme qui? Comme ennemi ou comme qui? Jusqu'à à maudire par exemple.
Non mais c'est son enfant. Mais elle est en colère, la personne est en colère. Et la personne est dépassée. C'est un péché, c'est une erreur. C'est une erreur.
Ouais, oui, pasteur, j'aurais aimé... Ça marche, hein?
Oui, ça marche.
J'aurais aimé qu'on clarifie là le sujet que tu viens d'aborder parce que j'ai du mal à comprendre. Tu disais que c'est le pasteur qui va avoir le souci de tel frère, telle sœur qui a un problème. Mais n'importe quel frère ou sœur qui a conscience du problème de son frère ou de sa sœur.
Il n'a pas la charge. Il n'aura pas. Il n'a pas été appelé à ça. On a des rôles différents.
Mais c'est même pas une question d'appel. C'est naturel qu'il ait une pensée au moins. Pour ce frère.
Non, on n'a pas dit le contraire, qu'il ait une pensée pour quelqu'un.
Non, mais quand je dis une pensée,
mais considérer le troupeau dans son ensemble, non, il n'a pas été appelé à ça. Dieu ne lui demandera pas de compte pour ça. On te demande des comptes en fonction de ton appel. Le jour du jugement, Dieu ne te dira pas que mais tu rentrais chez toi, tu ne priais pas pour toute l'église, chaque frère, ainsi de suite, parce qu'il ne t'a pas donné cette charge-là. Dieu nous donne des charges différentes en fonction, mais Dieu ne va pas te demander de prier pour la Chine alors qu'il ne t'a pas demandé, il ne va pas te demander de compte. Mais la personne à qui il a mis le fardeau de la Chine, il va lui demander de compte. Et cette personne, quand il rentre à la maison, c'est un Français, mais qui ne pense qu'à la Chine. Parce qu'il a reçu ce fardeau-là. On n'a pas le même, c'est le corps du Christ. Chacun a un fardeau. Voilà.
Mais justement, quelque part, je pense que même si on ne l'a pas forcément tous, mais on devrait quelque part avoir tous une pensée pour nos frères et sœurs de partout dans le monde.
Non, mais avoir une pensée...
Ah, mais quand je dis une pensée, c'est quelque part, c'est prier tout, aussi pour cette personne-là.
On a dit l'amour de Christ, mais ça, tout le monde doit avoir l'amour de Christ pour tout. Mais on n'a pas les, on ne peut pas tout faire, on n'est pas Dieu, c'est pourquoi nous sommes un corps pour que chacun prenne une partie. C'est logique. Un exemple simple, l'amour de Christ ne nous amène pas, nous tous, à nous comporter comme le papa de tout le monde dans la maison, nous amener à l'école, aller faire ceci, aller faire ça. On n'a pas cette capacité-là. Donc, on va se limiter à amener à l'école nos propres enfants, les nourrir, voilà. Mais on aime les enfants des autres, mais on n'a pas la capacité. Dieu ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas amené les enfants des autres à l'école. Mais ça peut arriver un jour qu'on nous demande, on le fait. Mais ce n'est pas comme quelque chose qui est à notre charge. Ce n'est pas la même chose. Non, on n'a pas tous la même charge. C'est évident. C'est évident. On n'a pas tous la même charge. Chacun a son appel. Chacun a son appel.
Et donc, tu me dis quand même que le fait de prier pour par exemple, des frères chinois, c'est un appel, ça.
Mais non, on n'a pas dit ça. On a dit, tu n'as pas l'appel de Saint Taylor. Et Saint Taylor est parti en Chine. Il s'est établi là-bas, il a marié une Chinoise. Donc, ce n'est pas le même appel que toi. Maintenant, s'il peut t'arriver un jour de prier pour les Chinois, gloire à Dieu, c'est l'amour de Christ, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui est appelé pour la Chine, il va avoir cette inspiration-là tout le temps. C'est son appel. Mais il peut arriver un jour, je prie pour les Américains comme ça. Ça m'arrive par le Saint-Esprit, c'est l'amour de Christ, je prie pour eux, je les bénis. Mais ça ne va pas m'arriver tout le temps en comparant avec quelqu'un qui a reçu l'appel des Amériques.
D'accord. Voilà.
Est-ce que l'on peut considérer les enfants qui sont pas voulus, non désirés, comme malédiction ? Parce qu'il y en a, à l'appel. Hein.
Oui, au début, il y a des mères qui ne peuvent peut-être pas désirer des enfants. Après, elles vont désirer, ça enlève la malédiction.
Ouais, mais enfin,
c'est vrai que si jusqu'au bout, là, elle n'a pas désiré, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent à cause de ça.
Surtout quand il y a des... Au moment où la femme est enceinte, les parents sont en divorce, quoi. Puis surtout, bon, il y a ma génération où plus de la moitié de la classe, c'était des enfants qui étaient non désirés. Parce qu'après la guerre, les femmes avaient besoin de se reposer, elles n'avaient pas envie d'avoir des gamins.
Oui, oui, mais après, elles peuvent accepter ça. Elles peuvent effacer en changeant. Hein. Donc, elles n'ont pas désiré au début, mais dans le parcours, elles peuvent toujours redésirer ça, accepter et avec joie. Ça peut se faire. Mais il est vrai qu'il y a des conséquences de manifester un refus d'un enfant jusqu'au bout. Il y a des conséquences sur l'enfant. Ce n'est pas bon.
Comme il est dit, je ne souviens plus l'adresse dans la Bible, au sujet des bâtards aussi.
Que ?
Bah que les bâtards, c'était une malédiction aussi.
Pas pour l'enfant. Hein. L'enfant n'a pas voulu venir. Hein.
Bah oui.
Mais après, dans la société. Oui, oui, dans la société, les gens peuvent mal parler et ça a un effet. Mais si on vient en Christ, tout ça, c'est sans effet parce que nous, on a. Et c'est sans cause pour l'enfant. Ouais. Sans cause pour l'enfant. Mais tout ce qu'on dit là, lorsqu'un enfant est en Christ et qu'il demande pardon pour ses péchés, tout ce qu'on dit là est sans cause, sans effet sur lui. Hein. C'est sans effet. Voilà. Si un enfant, même s'il a été maudit par sa mère ou par n'importe qui, et qu'il demande pardon pour ses péchés, tout ce que les gens peuvent dire après, c'est sans effet. Ou qu'ils ont dit avant. Oui ?
Pourquoi une mère,
Pourquoi c'est important une mère ?
Ça maudit un enfant.
Oui, il y a des mères parfois qui sont fatiguées par les enfants qui les embêtent, et elles peuvent se fâcher et dire une mauvaise chose. Donc après, il faut demander pardon et ça va passer.
Oui, en fait, pasteur, je voulais savoir comment se manifeste la malédiction de la mère en fait sur l'enfant. C'est lorsqu'elle dit la phrase « je te maudis » ou autre chose aussi
Oui, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent « tu ne réussiras pas », il y en a qui disent des choses.
Donc dire ça, par exemple, c'est une malédiction aussi.
C'est une malédiction, dire à quelqu'un que tu ne réussiras pas. Voilà.
D'accord.
Une malédiction. Et il y en a aussi qui disent « je te maudis ».
Mais tu m'énerves, non ?
Ah non, ça c'est pas...
Pasteur, moi je voulais plutôt vous demander, parce qu'il y a des choses qu'on a subies quand on était enfant. Je n'aimerais pas que ça soit maintenant pour les autres dire à leurs enfants. Il y a des mamans qui prennent le verset là, ils commencent à dire à leurs enfants, si tu joues avec moi, je vais te maudire à chaque reproche.
Ah non, c'est un péché. Le Seigneur nous dit, bénissez, ne maudissez point. Mais nous devons prévenir tout le monde, parce que certains blocages dans nos vies, nous ne comprenons pas ça vient d'où. Ça vient du fait qu'on a manqué de respect à des femmes. Donc c'est pas bon. Donc ça, il faut que tout le monde soit prévenu là-dessus. Parfois, tu te répands des choses, mais le vrai problème, c'est que tu as manqué de respect à des femmes. Donc c'est ton vrai problème. Il faut que nous soyons au courant. Il est écrit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc il faut comprendre ces choses-là. Il ne faut jamais entrer en conflit avec une femme comme si elle était un homme. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà, c'est bon. Plus de questions. Oui ?
Moi, je voudrais savoir, par exemple, si un enfant, il n'écoute pas, il fait une bêtise, et son père ou sa mère, eh ben, il frappe, c'est pas bien pour son, c'est un péché pour les parents?
Ah non, c'est pas un péché, ça.
Non.
Mais c'est pas un péché. Au contraire, c'est une bonne chose si la correction est mesurée. Maintenant, si on tape trop fort, c'est pas bon non plus. Okay. Donc, le but, c'est que l'enfant comprenne que ce qu'il a fait est mauvais. Donc, c'est... La correction n'est pas refusée dans la Bible.
Ok.
Non, c'est pas refusé. Et d'ailleurs, parce qu'il n'y en a plus, que les enfants sont mal éduqués aujourd'hui. Voilà.
J'ai une question. Que dire d'une femme qui est dans une assemblée et qui voit que le responsable spirituel ne se comporte pas bien et elle va le voir pour dire à ce responsable spirituel que je vous parle en tant que mère, ce que vous faites n'est pas bien, et le responsable dit, c'est moi qui ai reçu l'onction, tu n'as rien à m'apprendre.
Alors, tout dépend. Si elle lui reproche quelque chose qui est écrit dans la Bible, par exemple, là tu voles, là tu as parlé impoliment aux gens, voilà, il n'y a pas de problème. Mais si elle lui reproche le chose du genre, tu es parti prêcher aux Antilles, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Ah non, c'est là que l'autre va dire, mais ce n'est pas ton appel.
C'est
mon ministère. Donc, si elle reproche tout ce qui concerne la pratique de la parole de Dieu, oui. Elle a le droit parce qu'elle est une sœur, donc c'est un frère au féminin. Donc, il est écrit que si ton frère a péché, tu vas le voir. Donc, on a le droit d'aller voir un pasteur, n'importe qui, pour lui dire ce que tu as fait est un péché par rapport à tel verset, par rapport à tel verset. Mais venir voir quelqu'un, le responsable lui dit, mais non, mais l'église, tu dois la diriger de telle manière... Ou bien tu ne dois pas prêcher à le mardi, tu dois prêcher plutôt le vendredi. Non, là, c'est aller prendre autorité sur la personne. Ça, c'est prendre autorité sur la personne. Voilà, ça dépend de ce qu'on reproche.
C'est sur les choses de la vie, en fait.
Ah oui, si c'est lié au péché, il faut parler. D'accord. Au contraire, c'est la responsabilité de nous tous. Nous sommes frères et sœurs. Donc, si un frère a péché, il faut aller le voir. Et ce frère-là, ça peut être le pasteur.
C'est bon, merci.
Je voulais savoir par rapport au... Je vais revenir sur le point des malédictions. Un enfant qui a grandi dans différents foyers où les femmes ont eu des attitudes pas de mère envers cette personne parce que c'était pas leur enfant et donc qui a subi des malédictions, même si c'était justifié, ça a aussi de l'effet. Enfin, même si c'était justifié, oui. Enfin, une femme qui maudit un enfant qui n'est pas le sien, qui vit sous son toit, qui est maltraitante envers cet enfant parce que ce n'est pas son enfant, est-ce que la malédiction de cette femme a autant d'effet que la malédiction d'une mère-mère ? D'une mère.
Est-ce que tout dépend de la relation qu'il y avait entre les deux. Si elle vivait comme sa mère, c'est la même chose.
Hein. C'est-à-dire à la maison ? Bah, l'enfant vit à la maison, donc elle est la mère à la maison, mais cet enfant n'étant pas son enfant, elle a une attitude maltraitante vis-à-vis de cet enfant.
Oui, il y a une chose, quand on devient chrétien, mm-hmm. tout ce qu'on a commis comme gêne dans la vie des autres personnes, si on a l'occasion, déjà on demande pardon à Dieu, mm-hmm. et dès qu'on va les voir, on demande pardon.
D'accord.
Voilà. Donc c'est comme ça, on est libéré de tout ce que les gens ont pu dire à cause de nos fautes. Ah, c'est ce qu'il faut faire. Quoi.
Ok.
Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, donc nous allons prier. En fait, le but de ça, c'est qu'il faut qu'on ait une paix sociale entre chrétiens, parce que certains ne vont pas comprendre, ah oui, mais pourquoi les femmes ne prêchent pas? Pourquoi ceci? Donc il fallait qu'on ait une discussion ensemble et que voilà, les arguments soient posés et qu'on lise dans la parole. Et que dans la pratique, on ne pratique pas avec murmure ni avec dégoût. Donc il faut pratiquer la parole de Dieu avec amour, avec paix et joie. Donc c'était ça le but, parce que je sais que le dimanche, on ne pose pas des questions. Quelqu'un peut rester sur sa faim, quelqu'un peut rester en désaccord. Ce n'est pas qu'on fuit les désaccords, mais on veut quand même construire ensemble. Voilà. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à construire au nom de Jésus. Seigneur, merci d'agir et de nous aider à construire, femmes et hommes, ton Église, ton œuvre sur la terre, dans le nom de Jésus-Christ. Agis puissamment dans ta bonté, agis puissamment dans ton amour, afin que les hommes comprennent leur rôle, que les femmes comprennent leur rôle, et que tous ensemble nous acceptions ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ, afin que, en pratiquant ce qui est écrit, nous voyons des fruits dignes de toi, Seigneur. En pratiquant ce qui est écrit, le diable n'ait pas de porte d'entrée dans ta construction pour détruire. Dans le nom de Jésus, qui est l'humilité entre hommes et femmes, à toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.